Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année. Merci beaucoup de m'accompagner et j'espère que 2024 va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Dans un deuxième temps, je souhaiterais remercier un certain nombre de personnes. Dans un premier temps, Arnaud, qui m'a bien gâté pour Noël. Merci beaucoup Arnaud, les vinyles sont magnifiques. Des Patreonneurs qui ont quitté le navire à cause de la crise et de l'inflation. Je leur souhaite le meilleur et ils peuvent revenir quand ils veulent. Comme je le dis souvent, c'est un abonnement volontaire, un abonnement que vous n'êtes certainement pas obligé de payer, mais que vous choisissez de payer parce que vous aimez le podcast et parce que vous n'aurez pas besoin de ces quelques euros à la fin du mois. Un nouveau Patreonneur en la personne de Paul, que vous connaissez peut-être puisqu'il est la basse en chemise à carreaux de Julien Between Trio. Bienvenue Paul, merci d'avoir rejoint l'aventure. Il me dit d'ailleurs dans un très gentil email que c'est après avoir écouté tous les podcasts et donc qu'il ne lui manque que les épisodes payants qu'il s'est enfin décidé à rejoindre le groupe des Patreonneurs. Merci beaucoup. Je sais qu'il attend avec impatience chaque nouvel épisode. Il me fait même le compliment suivant. J'admire le sérieux de ton travail ainsi que l'effort de déconstruction que tu exprimes. Merci beaucoup, Paul. Merci aussi et bienvenue aux Patreonneurs non payants. En effet, depuis peu, on peut s'abonner à mon Patreon sans payer. Et donc, on a de temps en temps un petit bonus, un article, une playlist. Bien sûr, pour avoir accès à tous les épisodes bonus, à toutes les playlists, et pour pouvoir participer au concours, et tout le reste, et bah, c'est 5 euros par mois. Sachez aussi que je ne vais pas tarder à prendre du retard dans l'enregistrement des épisodes. Il est donc possible qu'un épisode saute en février ou en mars. Mais nous aurons, quoi qu'il arrive, rendez-vous dans un avenir proche avec Ronnie Spector, ce qui sera une nouvelle occasion de dire tout le mal que je pense de Phil Spector et tout le mépris qu'il mérite, mais aussi Curtis Mayfield and the Impressions, Diana Ross and the Supremes, la seconde partie de James Brown, les Four Tops, les Temptations, Ike et Tina Turner, et finalement, Otis Redding. Merci d'être fidèle. Aujourd'hui, un épisode très important. Sortez une copie double, grand carreau, grand format, mettez votre nom dans la marge. Nous allons parler de Green Onion, de Booker T and the MGs et de la fondation du label Stax.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le Captain Dilligaff, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Captain Dilligaff n'hésite pas à mélanger classic rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment ? Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ? Le blues a-t-il été inventé par les Blancs ? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées ? Patti Smith aime-t-elle Morrissey ? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Cet épisode, c'est l'histoire de l'enregistrement d'un groupe de musiciens qui jouera un rôle important dans le développement de la musique des années 60, ainsi que les premières années du label Stax Records, un label qui deviendra aussi important que Chess, Motown ou Sun. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Green Onions de Booker T and the MGs et sur la façon dont un violoniste blanc a accidentellement donné le coup d'envoi au label le plus important de la musique soul du Sud. Notre histoire commence à Memphis, avec Jim Stewart, un violoniste à temps partiel. Stewart fait partie d'un groupe de western swing et est très influencé par Bob Wills, comme tout le monde à l'époque. Mais il ne gagne pas vraiment d'argent avec la musique. Au lieu de cela, il occupe un emploi de jour dans une banque. mais il s'intéresse toujours à la musique et veut s'impliquer dans l'industrie. Il avait notamment fait partie de l'orchestre d'une salle où Elvis s'était produit parfois à ses débuts. Et il avait vu comment Elvis était passé d'un obscur garçon du coin à plus grande star du pays. Il savait qu'il ne pourrait pas en faire autant lui-même, bien sûr, mais il était irrésistiblement attiré par tout domaine où cela était possible. Et contre toute attente, il est entré dans l'industrie de la musique et dans l'histoire de la musique grâce au conseil de son coiffeur. Le coiffeur en question, Ervin Ellis, était un joueur de violon country, mais il possédait sa propre maison de disques, Erwin Records. Erwin Records était un label minuscule. Si minuscule que son premier disque, produit par Ellis lui-même, semble n'exister nulle part et est aujourd'hui totalement introuvable. Même sur les compilations d'enregistrement d'Erwin Records qui existent, elle, il n'est pas présent. Ce qui est dommage, car il serait intéressant d'un point de vue historique d'entendre le jeu de Ellis lui-même. Bien qu'Ellis n'ait pas eu de succès en tant que violoniste et propriétaire de maison de disques, il a quand même réussi à sortir une poignée de disques de rockabilly sur Erwin Records, comme Eeny, Meeny, Miny, Moe de Hoyt Jackson. Eeny, Meeny, Miny, Eeny, Meeny, Moe, grab your gal and go, boy, go, go. Well, I'm gonna strut my stuff. Well, I'm gonna call your bluff. I'm gonna rock and roll. Well, Lord, 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 will bless my soul. Well, I'm gonna paint the town. I'll be getting around. I'm gonna spend my time. Blue block, flippity flop. Eeny, meeny, miny, eeny, meeny, moe. Grab your gal and go, boy, go, go. Well, I'm gonna spend my time. Il a également sorti Boppin' Wing-Wam Willie de Ray Scott, qui avait écrit Flying Saucer Rock'n'Roll pour Billy Lee Riley, qui était accompagné par les Little Green Men de Riley sur ce single.
Show him how to bop. Hey, Wigwam Willie had one desire. Really wanted to sit back woods on fire. But the more he tried, the worse he got. Because the Wigwam Willie just could not bop.
Le label d'Ellis n'était pas un grand succès, mais il gagnait correctement sa vie. Et il expliquait les réalités de l'industrie musicale à Stewart, assis dans le fauteuil de son coiffeur. Il a expliqué à Stewart que les disques eux-mêmes ne rapportaient pas vraiment d'argent. Les petits labels ne vendaient pas grand-chose, mais que là où il gagnait bien sa vie, c'était avec les chansons. La formule du succès dans l'industrie musicale, expliqua Ellis, consistait à dire aux nouveaux artistes qu'ils ne pouvaient enregistrer que des compositions originales, pas des reprises, et à s'assurer qu'ils vous cédaient les droits d'édition de la chanson. Ainsi, si vous vendiez un disque, en fait vous ne vendiez qu'un morceau de plastique que vous aviez payé pour sa production, pour la fabrication du morceau de plastique. C'était donc du négoce. J'achète, je revends et j'ai une petite marge. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent à se faire là-dedans. Mais si vous possédiez les droits d'édition de la chanson, à chaque fois que le disque passait à la radio, vous preniez un peu d'argent sans rien débourser de plus et sans rien faire. Et si vous possédiez suffisamment de chansons, certaines d'entre elles pouvaient être reprises par une grande star, et alors là, vous receviez de l'argent, pas mal d'argent. Hoyt Jackson, le plus grand artiste que Ellis ait signé, n'avait pas eu de succès lui-même, mais il avait écrit « It's a little more like heaven where you are ».
I have sailed the peaceful waters of the ocean deep and blue. Felt the rapture of the dawning thrill to sunset's golden hue. I have soared above the mountain peaks or valleys great and wide, but it's a little more like heaven by your side. It's a...
Hank Locklin avait enregistré une reprise de cette chanson qui s'était hissée à la troisième place du hit country.
I have sailed the peaceful waters, salt the ocean deep and blue. Felt the rapture of the dawning, thrilled to sunset's golden view. I've soared above the mountain peaks, for valleys great and wide, but it's a little more like heaven by your side. It's a little more like heaven where you are.
Et Johnny Cash l'avait un peu réécrite sous le titre de You're the Nearest Thing to Heaven et l'avait également classée dans les 5 premières places du hit parade country.
I have sailed the peaceful waters of the ocean deep and blue. I held my breath and watched the western sunset's golden hue. I've flown above the mountain peaks and valleys wide and green, but you're the nearest thing to heaven that I've seen. You're the nearest thing to heaven, yes you are. I have searched for happiness so long and far, but my search for...
Ellis a donc expliqué à Stewart qu'il recevait encore des chèques tous les 2 mois parce qu'il était propriétaire de l'édition de cette chanson en particulier, que quelqu'un d'autre avait écrite, et tout ça lui apportait de l'argent. Si vous possédiez les droits d'édition d'une chanson qui devenait un succès, vous disposiez alors d'une source de revenus très régulière, sans avoir à bouger le petit doigt et sans avoir à investir à rien du tout. Les gens vous donnaient les droits d'édition de leurs chansons si vous acceptiez de les enregistrer parce qu'ils crevaient d'envie d'être enregistrés. Pour quelqu'un comme Stewart, qui travaillait dans une banque et connaissait un peu la finance, cela semblait un plan parfait. Il réunit un DJ chanteur, un pianiste et un guitariste rythmique qu'il connaissait, et ils mettent en commun leurs économies pour réunir 1000 dollars afin de sortir un disque. Stewart écrit une chanson, la seule chanson qu'il écrira jamais. Fred Byler, le DJ, la chante, et ils engagent Ellis et son magnétophone pour l'enregistrer dans le garage de l'oncle de la femme de Jim. Ils ont trouvé un nom pour le label, Satellite Records. Personne n'aimait ce nom, mais ils n'avaient rien trouvé de mieux, et les satellites étaient à la une de l'actualité avec le récent lancement du Sputnik. Le titre, Blue Roses, de Fred Byler, n'a pratiquement jamais été vendu ni diffusé.
Bride's bouquet with my best wishes.
Le disque suivant était un peu plus intéressant, Boppin' High School Baby de Don Willis. C'est un excellent morceau de rockabilly de Memphis, bien qu'il contienne tellement d'écho que même les Shadows auraient pu dire « Attendez, c'est pas un peu trop là ?» Malheureusement, cela ne s'est pas vendu non plus. Stewart et ses partenaires ne connaissent rien au monde de la musique, ils ne savaient pas comment distribuer les disques dans les magasins et ils n'avaient de toute façon plus d'argent. Ervin Ellis déménage et emporte son magnétophone, son salon de coiffure, et l'oncle de la femme de Stewart veut à nouveau utiliser son garage et les fout dehors, donc ils ne peuvent plus enregistrer. Il semble que ce soit la fin de l'histoire de Satellite Records, mais 3 événements ont tout changé pour Jim Stewart et pour l'histoire de la musique. Tout d'abord, le nouveau coiffeur de Stewart s'intéressait également à la musique et il avait une fille qu'il pensait capable de chanter et il disposait d'un grand espace de stockage qu'il n'utilisait pas, à Brunswick, dans la périphérie de la ville. S'ils enregistraient sa fille, alors il était d'accord pour qu'ils utilisent l'entrepôt comme studio. Le second événement, c'est l'arrivée de Chips Moman. Chips était un guitariste adolescent qui jouait sur la guitare d'un ami dans le drugstore de Memphis où il traînait après le travail, lorsque un jour Warren Smith est entré. Smith était un artiste de rockabilly de Sun Records qui avait eu un petit succès avec Rock'n'Roll Ruby.
Watching all the rhythm in her feet. She's my rockin' old Ruby. Rockin' old, rockin' old Ruby.
Smith écoute le jeu de Moman et l'apprécie. Il lui offre donc un emploi. Et la première réponse de Moman fut « Mais pourquoi faire ?» Moman a rejoint le groupe de Smith à la guitare, Puis il a joué avec Johnny et Dorsey Burnett. Puis il est parti avec les Burnett en Californie où il a été musicien de session pendant un certain temps, bien que je n'ai jamais pu trouver une liste exacte des disques sur lesquels il a pu jouer, mais seulement des gens qui disent qu'il a joué au Gold Star Studio. Il a ensuite rejoint les Blue Caps de Gene Vincent avant d'être victime d'un accident qui l'a poussé à rentrer à Memphis. Il avait joué de la guitare sur la session de Don Willis et l'avait essentiellement produite, en fait, appliquant certaines des techniques qu'il avait vues ou apprises dans les studios californiens. Il était jeune, il avait envie de faire des disques et il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Enfin, Stewart a enfin réussi à persuader sa sœur, Estelle Axton, de racheter les parts de ses partenaires commerciaux. Estelle était une personne naturellement orientée vers le business, qui avait également envie de faire quelque chose dans le domaine de la musique, et qui avait fait les choses par petites touches. Par exemple, les personnes qui travaillaient avec elle aimaient la musique, mais elles étaient trop occupées à travailler pour aller chez le disquaire. Estelle établissait donc une liste des disques que ses amis aimaient. Elle se rendait chez des grossistes qui distribuaient la musique au disquaire. Elle y achetait des disques pour 76 cents et les revendait à ses collègues pour 1 dollar. Estelle persuade son mari, malgré lui, de réhypothéquer leur maison et utilise l'argent pour acheter du matériel d'enregistrement. Moman les aide à installer dans l'espace de stockage du barbier et Satellite Records redémarre, recommençant leur numérotation comme si elles partaient de zéro, avec ce qu'ils considèrent maintenant comme leur vraie première sortie, une chanson que Moman a écrite, chantée par un groupe vocal noir, les Veltowns, Fool in Love. Le disque est assez proche du style pop blanc semi-doo-wop qui figurait dans les hit-parades à l'époque. Mais les chanteurs étaient noirs, il fallait donc le promouvoir en tant que R&B. Jim Stewart rend visite à des DJ noirs comme Al Bell ou Rufus Thomas et parvint à réussir à faire passer le disque à l'antenne. Le succès est tel que le disque est distribué par Mercury, un grand label, ce qui permet à Satellite de réaliser un petit bénéfice. Mais le label ne se porte toujours pas bien et il est difficile de persuader les musiciens de se rendre jusqu'à Brunswick, c'est loin. De plus, le studio n'était pas idéal à d'autres égards, il se trouvait à côté d'une voie ferrée et le bruit des trains perturbait les sessions. Et même si c'était gratuit, à un moment ou à un autre, ils allaient être obligés d'enregistrer la fille du coiffeur de Stewart et personne n'avait vraiment envie de le faire. Il décide donc de changer à nouveau de studio et s'inspire pour cela d'un autre label de Memphis, High Records, qui avait vu le jour à peu près en même temps que Satellite et avait connu quelques grands succès, notamment Smokey Part 2 du Bill Black Combo, le groupe de l'ancien bassiste d'Elvis qu'il avait formé lorsque ce dernier était parti à l'armée. Studio, High avait utilisé un vieux cinéma. Beaucoup de cinémas fermaient à l'époque, à la fin des années 50, parce que la télévision et le drive-in rendaient les salles moins attrayantes, et parce que la fuite des blancs vers les banlieues signifiait que les gens qui avaient de l'argent ne vivaient plus à distance de marche des cinémas comme avant. Donc ils allaient en voiture au drive-in ou restaient chez eux à regarder la télé. l'équipe de Satellite a trouvé un vieux cinéma sur East McLemore Avenue, beaucoup plus proche du centre de Memphis et plus facile d'accès pour les musiciens. Ce cinéma avait cessé de projeter des films un an ou deux auparavant et il avait été utilisé pendant une brève période pour des spectacles de musique country. Mais le quartier devenait de plus en plus noir à mesure que les Blancs déménageaient vers la banlieue. Et si beaucoup de Noirs aimaient la musique country, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus au spectacle dans le Memphis ségrégationniste des années 50. Et le bâtiment était donc abandonné et disponible à très bas prix. Pendant ce temps, Charles, le fils d'Estelle, essayait lui aussi de se lancer dans la musique. Charles a rejoint un groupe entièrement blanc qui aimait jouer du R&B et qui s'appelait les Royal Spades. C'était soi-disant parce qu'ils aimaient jouer aux cartes, mais il est fort possible que la connotation raciale du terme ait été utilisée délibérément et que ces adolescents blancs un peu idiots riaient de leur vilaine transgression raciale. À l'origine, le groupe n'était composé que de guitaristes, de bassistes et de batteurs, mais Charles Axton les a approchés et leur a suggéré de se doter d'une section de cuivre, proposant ses services en tant que ténor. Ils ont ri quand il leur a dit qu'il ne jouait que depuis quelques semaines. Mais une fois qu'il a expliqué que sa mère et son oncle possédaient une maison de disques et un studio d'enregistrement, il a été intégré au groupe, qui s'est ensuite étoffé d'une section cuivre complète. Le groupe était dirigé par le guitariste Steve Cropper et comprenait également son ami, le bassiste Doug Dunn. Cropper et Axton ont aidé à transformer le cinéma en studio d'enregistrement. Le cinéma avait un autre avantage. En plus de la salle principale, l'auditorium, qui est devenu le studio, il y avait un hall d'entrée et un stand de pop-corn. Estelle Axton en a fait un magasin de disques, qu'elle a géré elle-même. Cropper aidait souvent derrière le comptoir. Elle a instauré une politique selon laquelle, contrairement aux autres magasins de disques, les gens pouvaient rester toute la journée à écouter de la musique sans nécessairement acheter quoi que ce soit, à part prendre un café. Elle a également mis en place un système de cartes de fidélité, achetez 9 disques et obtenez-en un 10e gratuit, qui lui a permis de savoir ce que chaque client achetait. Rapidement, elle est devenue tellement au fait de ce qui se vendait aux adolescents noirs du quartier qu'elle se vantait que si quelqu'un entrait dans le magasin avec 20 dollars, elle pourrait réussir à lui vendre pour 19 dollars de disques avant de ne laisser repartir avec au moins 1 dollar pour qu'il puisse payer le retour en bus. En ayant un magasin de disques dans le studio lui-même, il savait ce qui se vendait et pouvait faire plus de musique qui sonnait comme ce qui était à la mode et qui plaisait. Grâce à la présence constante de clients qui écoutaient de la musique toute la journée, ils pouvaient diffuser les nouveaux enregistrements et évaluer les réactions avant d'en presser un seul exemplaire. Satellite Records s'est soudain doté, finalement, d'un service d'études de marché. Et ils ont bientôt un allié qui leur permet de passer à l'antenne, Rufus Thomas. C'était l'homme le plus important du monde du show business noir à Memphis. C'est pas compliqué. C'était un DJ et un comédien populaire, le compère de presque tous les spectacles du Chitlin Circuit de la région. Et c'était aussi un chanteur populaire. C'est lui qui a enregistré le premier succès de Sun Records, Bearcat, qui était la réponse à Handout.
You said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. You said you was a long hair, but I can see through that. You said you was a long hair, but I can see through that. And mama, I know you just an old bearcat. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. Ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. Oh, I'll rub ya. Kidding. me feel so mean. Made me moan and groan. You made me feel so mean. You made me moan and groan. You ain't wanting no man.
Rufus Thomas connaissait Jim Stewart depuis l'époque où ce dernier faisait la promotion de son single des Veltones. Et il est donc venu dans le studio nouvellement ouvert et lui a proposé d'enregistrer lui-même quelques morceaux. Si vous avez un label et qu'un DJ veut enregistrer un disque avec vous, c'est une aubaine. Vous êtes assuré d'être diffusé non seulement pour ce disque, mais aussi pour quelques autres disques de votre maison de disques. Et si ce DJ se trouve être un véritable talent qui a déjà enregistré des disques à succès, vous ne réfléchissez pas longtemps. Thomas a également fait appel à sa fille, Carla, qui possède une voix étonnante. Pour la première session dans le nouveau studio, il enregistre une chanson que Rufus a écrite, « Cause I Love You », avec quelques musiciens qu'il connaît, dont un bassiste appelé Wilbur Steinberg, et avec Steve Cropper à la guitare et Chips Moman à la production. David Porter, un adolescent qui chantait dans un groupe avec Bob Tally, le trompettiste de la session, se trouvait également dans le studio. Porter séchait l'école pour pouvoir être dans un vrai studio d'enregistrement, même s'il n'allait pas chanter, il voulait voir. Lorsqu'ils ont commencé à jouer la chanson, Tally a décidé qu'elle sonnerait bien mieux avec un saxophone baryton. Personne dans le studio ne jouait du saxophone, mais Porter s'est alors souvenu qu'un de ses camarades de classe au lycée Booker T. Washington, ce camarade s'appelait aussi Booker T. Jones, et il savait jouer de tout. Il jouait du hautbois, du saxophone, du trombone, de la contrebasse, de la guitare, des claviers, à un niveau professionnel. Ce mec était dingue. Porter se rend à l'école, il entre dans la classe où se trouve Jones et dit au professeur qu'un autre professeur veut voir Jones de toute urgence. Il le fait sortir de la classe et lui explique qu'il faut qu'il vienne tout de suite pour enregistrer un disque. Ils ont emprunté un saxophone baryton dans la salle de musique de l'école et sont retournés au studio et Jones a joué sur « Cause I Love You » de Rufus et Carla Thomas. «
Cause I Love You devient un succès local et Jim Stewart reçoit bientôt un appel de Jerry Wexler d'Atlantic qui lui propose de commencer à le distribuer, ainsi que tous les futurs disques de Rufus et Carla Thomas. Stewart ne connaît pas vraiment le milieu, mais lorsque Wexler lui explique que c'est lui le producteur de What I Said et Ray Charles, Stewart sait que c'est avec lui qu'il doit travailler. Il vient d'avoir une sorte de révélation après avoir entendu ce disque et il est désormais totalement engagé dans le nouveau style R&B de sa société. Pour une avance de $5,000, Atlantic finit par obtenir les droits de pressage et de distribution de tous les futurs masters de Satellite. Le single suivant du label était un disque solo de Carla Thomas, Gee Whiz, Look at His Eyes. Pour cette session, ils ont engagé un ensemble à cordes et Bob Tally, qui devait écrire un arrangement pour eux, s'est pas présenté à la session. Et lorsque Stewart est allé le chercher chez lui, il a découvert que Tally n'avait pas écrit l'arrangement et qu'il avait passé toute la nuit à jouer dans un autre concert et qu'il n'était pas en état d'écrire. Stewart a dû faire jouer les musiciens à cordes en leur fredonnant l'arrangement qu'il imaginait. C'est ce que les musiciens à cordes ne font jamais. Et il a fini par leur donner des instructions du genre « jouez comme des donuts », c'est-à-dire des croches ou des notes entières qui sont dessinées comme des ovales avec un trou au milieu, comme un donut. Enfin, vous voyez le style. Malgré cela, Gee Whiz se classe au 5e au palmarès R&B et 10e au palmarès pop. Satellite Records tenait là à un véritable succès. Satellite commençait à constituer toute une équipe de personnes auxquelles il pouvait faire appel. Steve Cropper travaillait au magasin de disques, il était donc disponible chaque fois qu'il y avait besoin d'une partie guitare ou d'un second clavier. David Porter travaillait à Big Star, l'épicerie de l'autre côté de l'avenue, et il s'avérait être un auteur, compositeur et un choriste talentueux. Et bien sûr, il y avait le groupe de Cropper et Charles Axton, qui avait été rebaptisé Marquise, un jeu de mots sur Marquis, dont, comme dans le titre de Noblesse, et Keys, comme dans Keyboard. Et Estelle Axton pensait à juste titre que leur nom d'origine était inapproprié. Il disposait également d'un pool de musiciens de session noire auxquels il pouvait faire appel, pour la plupart des personnes plus âgées qui leur avaient été amenées par Rufus Thomas. Et il y avait toujours des adolescents enthousiastes qui venaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour participer à l'enregistrement d'un disque. Ce sont les Marquees qui ont enfin donné à Satellite le son distinctif et définitif qu'ils recherchaient. Ou du moins, c'est sous le nom Marquees que le disque est sorti. Un instrumental, Last Night, a été enregistré lors de plusieurs sessions dirigées par Moorman, souvent avec des groupes de musiciens différents. Les Marquees étaient alors composés de Steve Cropper, Donald Dugden, Charles Axton, Wayne Jackson, Terry Johnson, Smoochie Smith et Don Nix. Mais sur l'enregistrement final, Smith était au clavier, Axton au saxophone et Jackson à la trompette. Certaines sources affirmant que Cropper avait fourni la deuxième partie de clavier, tandis que d'autres disent qu'il n'a joué que sur une piste test, et non sur la version finale. Les quatre autres musiciens étaient des musiciens de session noire, Lewis Steinberg, le frère de Wilbur à la basse, Gilbert Capples et Floyd Newman au saxophone, et Curtis Green à la batterie. Floyd Newman a également prononcé le « Ooh, last night » qui ponctue le disque, et on va s'écouter ça, et on va s'écouter ça en entier, parce que c'est très court et c'est génial. Thank you. Jim Stewart et Chip Smallman étaient tous deux convaincus que ce serait un flop, tout comme Jerry Wexler lorsqu'il l'a entendu. Mais Estelle Axton croyait en son potentiel, et surtout elle croyait en son fils, pour lequel Stewart n'avait pas beaucoup de temps. Jim Stewart ne voulait pas du tout que le groupe de son neveu inutile soit sur son label, s'il le pouvait. Mais Estelle Axton voulait que son fils ait un succès. Elle a donc donné un pressage test à un DJ qui a commencé à le jouer, et les gens ont commencé à venir au magasin pour réclamer le disque. Stewart a fini par céder à la pression de sa sœur et a accepté de sortir le disque. Il n'y a eu qu'un seul problème. En retirant la bande, ils découvrent que la première partie du morceau a été effacée. Ils ont donc fouillé dans les poubelles à la recherche de bouts de bande jetés jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre prise de la chanson dont le début était utilisable et qu'ils pouvaient coller. Ils ont fait du bon travail. Je pense qu'on peut peut-être entendre leur accord, s'il est là où je pense qu'il est. C'est à peu près le travail de montage le plus propre sur bande analogique que j'ai jamais entendu. Vous pouvez le chercher si ça vous amuse. La paternité de la chanson a été débattue au fil des années, évidemment, car la partie cuivre et la partie clavier ont été écrites distinctement. Caples et Newman, les saxophonistes de session Black, avaient inventé la partie cuivre et ont donc toujours dit qu'il devait être crédité pour la composition en solo. Smoochie Smith avait écrit séparément la partie clavier, qui provenait de quelque chose sur lequel il avait déjà travaillé de son côté, et il a donc été crédité lui aussi. Chip Smallman avait suggéré de combiner les claviers et les horns, et il a donc été crédité pour la composition. Charles Axton n'a rien fait d'autre que de jouer sur le disque, mais comme sa famille était propriétaire de la maison de disques et du studio, il a été également crédité. Le disque est devenu un grand succès. Et il y a plusieurs hypothèses pour l'expliquer. Steve Cropper a toujours soutenu que c'était parce qu'on pouvait danser le twist sur cette chanson et qu'elle a donc suivi la mode du twist, tandis que d'autres ont souligné qu'à un moment de l'enregistrement, quand il laisse un vide au lieu de dire « Ooh, last night », comme ils le font tout au long de la chanson, à ce moment-là, ils ne disent rien. Et ça a donné un espace au DJ pour faire l'interjection eux-mêmes, dire « Ooh, last night » ou le nom de la radio à ce moment-là, ce qui a encouragé les DJ à la jouer le plus souvent possible. Satellite Records attire alors l'attention d'un autre label, également appelé Satellite en Californie, qui propose au label de Memphis de lui céder les droits d'utilisation du nom. Jim Stewart, qui n'aimait déjà pas beaucoup le nom Satellite, s'est dit que non, il n'allait pas dépenser du blé pour racheter un nom qu'il n'aimait pas. Ils ont donc réédité le disque sous un nouveau label qu'ils venaient de créer, nommé d'après les premières lettres du nom de Jim Stewart, ST, et les premières lettres du nom de Estelle Axton, AX. Stax Records était né. Les Barkees partent immédiatement en tournée pour promouvoir le single, ce qui suscite le ressentiment des musiciens noirs dont certains affirment que pendant la session, le disque n'avait même pas été conçu comme un disque des Marquis, et qui sont agacés par le fait que, même si le disque est principalement le fruit de leur travail, ils n'obtiennent même pas la reconnaissance qu'une bande de garçons blancs récupère. Cropper se lasse assez rapidement de la tournée, quitte le groupe et revient à Memphis. Il est contrarié, d'une part parce que les autres membres du groupe, qui sont des adolescents, dont beaucoup quittent la maison pour la première fois, se comportent comme des sauvages. D'autre part parce que Cropper et Charles Axton se considèrent tous deux comme leaders du groupe et pensent que les autres doivent leur obéir. Cropper retourne travailler chez le disquaire et participe à d'autres sessions chez Stax. Le deuxième single des Marquis est enregistré par les musiciens du studio pendant que le groupe est en tournée. Ils n'en ont eu connaissance que lorsqu'ils l'ont vu en magasin. The morning after. Ce fut un succès bien moindre, mais le label est toujours intéressé par la production d'instrumentaux. Ils ont créé un label subsidiaire, Volt, et si vous sortez des disques avec deux noms de labels différents, eh bien vous avez beaucoup plus de chances que les stations de radio passent plus de vos disques, parce que cela ne donne pas l'impression qu'elles favorisent un label plutôt qu'un autre. Et le premier single de ce label était un instrumental que Chip Smallman avait écrit, Burnt Biscuits, par un groupe composé de Moman, Mavel, le fils de Rupius Thomas, Lewy Steinberg et Howard Grimes. « C'est pas vraiment un succès, mais Moman pense qu'il a le potentiel pour devenir aussi important que Last Night. Il est sorti sous le nom The Triumph, d'après le nom de la voiture de sport que conduisait Moman. Peu après, Moman produit ce qui sera le dernier disque classique qu'il fera pour Stax, lorsqu'il produit You Don't Miss Your Water pour un nouveau chanteur, William Bell, qui avait été auparavant l'un des choristes de G-Wiz, Mavel Thomas, le fils de Rufus Thomas au piano, Lewis Stenberg à la basse, Ron Capone à la batterie et Booker T. Jones à l'orgue. À ce moment-là, on faisait souvent appel à Booker T. pour jouer des claviers, car Floyd Newman le recommandait comme un pianiste fiable, dans l'espoir que si Jones était au clavier, eh bien, il ne jouerait pas de saxophone baryton, ce qui permettrait à Newman d'obtenir plus de ses contrats en tant que saxophoniste. C'est un excellent disque, l'un des plus importants de ce nouveau genre country soul avec les disques d'Arthur Alexander. Mais ce serait la dernière chose que Moman ferait à Stax. Il ne s'entendait pas avec Estelle Axton et il prétend également qu'on lui avait promis un tiers de la société, mais que Jim Stewart avait changé d'avis et refusé de l'intégrer. Tout le monde a une histoire différente sur ce qui s'est passé. Le résultat, en tout cas, c'est que Moman a quitté la compagnie et est allé à Nashville pendant un certain temps, puis a fondé son propre studio, American, dans un autre quartier de Memphis. Moman sera responsable de l'écriture et de la production de toute une série de classiques soul, de country, de rock, et je suis sûr que nous entendrons parler encore de lui dans d'autres épisodes. Au passage, on a déjà parlé de lui dans l'épisode sur Aretha. Après le départ de Moman, le label a un peu flanché pendant quelques mois. Jim Stewart et Steve Cropper se partagent la tâche de production qui incombait à Moman. Stewart avait déjà produit plusieurs disques pour Carla Thomas et Cropper était un excellent musicien qui passait chaque seconde qu'il pouvait à apprendre comment on fait des disques. Ils ont donc pu faire face. Mais ils ont sorti un mélange de très bons disques soul qui n'ont pas forcément réussi à atteindre les charts et des chansons country inédites vraiment affreuses comme The Three Dog Woods de Nick Charles, une chanson du point de vue de l'arbre qui est devenu la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Oui, on n'est pas dans le pathos du tout.
Some 1900 years ago, three dog woods standing tall, side by side and strong they were, but one stood above them all. They could hear people talking about a man called the Son of God. The tall dogwood didn't know at this time he was to hold the Son of God. Time had come for this man to die. Dogwoods were chopped down.
Cette chanson a été coécrite par Cropper, ce qui montre que le même homme qui a coécrit In the Midnight Hour, Duck of the Bay et Knock on Wood a eu aussi ses mauvais jours. Le disque qui allait prouver que Stax était capable de faire de très grandes choses sans Chips Moman est en fait arrivé par accident. Stax n'était pas encore exclusivement un label de soul et il produisait quelques disques country et rockabilly. Et l'une des personnes qui allait utiliser le studio était Billy Lee Riley. Riley avait eu un succès avec un rock à propos de soucoupes volantes, Flying Saucers Rock'n'Roll.
Well, the news of the saucer been a flying around. I've been water, seen it on the ground. First thing I seen when I saw it land, the cats jumped out and they formed a band. My thoughts are rock and roll. My thoughts are rock and roll. I couldn't understand the things they said about that crazy beauty just to stop me dead.
À l'époque, Riley dirigeait son propre label, faisait des séances de travail et chantait pour d'autres personnes. Personne ne sait exactement ce qu'il faisait au studio au début de l'été 62. Certains disent qu'il était en train d'enregistrer un jingle, d'autres disent qu'il a enregistré quelques morceaux mais qu'ils étaient horribles, et d'autres disent qu'il était totalement ivre et ne pouvait pas enregistrer quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, la session, en tout cas, s'est achevée prématurément et les musiciens se sont retrouvés dans l'embarras avec rien à jouer. Les musiciens de cette session étaient trois des musiciens habituels de Stax, Steve Cropper, qui venait d'avoir 20 ans à la guitare, Booker T. Jones, qui était encore adolescent, à l'orgue, et Lewis Steinberg, qui avait 10 ans de plus que tout le monde, qui était à la basse. Le quatrième musicien est Al Jackson, qui, comme Steinberg, était un noir plus âgé, qui s'était fait les dents en jouant du jazz et du rhythm and blues au long des années 50. Booker avait joué avec Jackson dans le groupe de Willie Mitchell et avait insisté auprès de tout le monde à Stax pour que cet homme soit engagé, car c'était le meilleur batteur que Jones ait jamais entendu. Jackson gagnait de l'argent grâce à ses concerts et il ne voulait pas perdre son temps à jouer des sessions qu'il pensait ne pas être aussi lucratif que ses concerts réguliers avec Willie Mitchell. Il devient ainsi le premier musicien employé par Stax en tant que musicien à plein temps. Cropper était déjà salarié, mais pour son travail de production et son travail chez le disquaire. La session s'étant terminée de façon plutôt décevante, les quatre musiciens étaient en train de jouer du blues, car ils n'avaient rien de mieux à faire. Jim Stewart a enclenché le talkback depuis la salle de contrôle pour leur dire quelque chose, genre « vous pouvez rentrer chez vous », mais lorsqu'il a entendu ce qu'ils étaient en train de jouer, il leur a dit « recommencez au début pour que je puisse enregistrer ». Stewart était parfaitement satisfait de ce morceau, mais les singles avaient besoin de deux faces, et il devait donc trouver autre chose. Cropper s'est souvenu d'un petit morceau qu'il avait entendu à la radio un jour où il conduisait avec Booker T. Ils avaient tous les deux été fascinés par ce morceau, mais aucun des deux ne se souvenait de quoi que ce soit à propos de la chanson, ni son titre, ni son interprète, et à ce jour, personne n'a pu déterminer quelle était la chanson qu'ils avaient entendue. Ils ont commencé à faire des essais sur le rythme dont ils se souvenaient et l'ont transformé rapidement en instrumental à 12 mesures. c'est encore mieux que l'autre morceau. Ils avaient besoin d'un nom funky pour aller avec un morceau aussi funky. Lewis Steinberg pensait que Les Oignons étaient quelque chose de très funky. Et le morceau devient donc Green Onions. Comme le dernier instrumental qu'ils avaient sorti avait de la nourriture dans le titre, Burnt Biscuits, joué par les Triumph, ils ont pensé que le nom du groupe devait être aussi le nom d'une voiture de sport. Et c'est ainsi qu'ils ont sorti le disque sous le nom de Booker T and the MGs, MGs pour le nom de marque de voiture de sport. Ils ont dit plus tard que MG, MG, signifiait Memphis Group ou Mixed Group, groupe de races différentes, parce qu'ils avaient des membres noirs et blancs, mais l'idée originale était sans aucun doute la voiture. Ils ne voulaient tout simplement pas se retrouver avec un procès de la marque sur les bras quand ils ont finalement eu du succès. Green Onion se classe numéro 1 dans les charts R&B et numéro 3 dans les charts pop et devient le plus gros morceau jamais enregistré par Stax. Ce noyau dur est devenu l'orchestre maison de Stax, participant à toutes les sessions à partir de ce moment-là. S'ils enregistraient un instrument seul, ils sortaient le tout sous le nom de Booker T and the MGs. S'ils enregistraient un instrumental avec des cuivres, ils le sortaient sous le nom des Marquis. Et ils accompagnaient également tous les chanteurs qui franchissaient la porte de Stax. Et il y en a eu beaucoup au cours des années suivantes. Il y eut quelques changements. Booker T, à un moment donné, est parti à l'université, peu après l'enregistrement de Green Onion. Si bien que, pendant quelques années, il ne pouvait jouer que le week-end et pendant les vacances. En semaine, le studio faisait appel à un autre claviériste, encore une fois suggéré par Floyd Newman qui voulait garder sa place de saxophoniste, qui avait engagé un jeune homme pour son groupe de bar et que le jeune homme ne pouvait pas jouer du piano mais que d'une seule main, simplement parce qu'il semblait avoir le sens de la musique. Ce jeune homme s'appelait Isaac Hayes et il a rapidement à jouer des deux mains. Il s'est parfaitement intégré au groupe pendant que Booker T était à l'université. L'autre changement survient quelques années plus tard, lorsque Lewis Steinberg est remplacé par Doug Dunn, le bassiste, après que les MG aient connu quelques succès. Steinberg a toujours prétendu que la principale raison pour laquelle il avait été écarté des MGs était qu'il était noir et que Steve Cropper voulait un autre homme blanc. Cropper a toujours dit que c'était parce que Doug Dunn avait un style plus dur qui correspondait mieux à la musique qu'il voulait faire, plutôt que le style relâché de Steinberg. Mais aussi parce que Dunn était son meilleur ami depuis l'enfance et qu'il voulait jouer davantage avec son pote. Les deux membres noirs des MGs n'ont jamais commenté ce changement publiquement pour autant que je sache. Mais que ce soit avec Jones ou Hayes, Steinberg ou Dunn, les MGs allaient constituer la base des enregistrements de Stax pour le reste des années 60, tout en produisant une série de succès instrumentaux. Et ce sont ces succès instrumentaux qui ont conduit à l'arrivée de la personne qui allait faire de Stax un label légendaire. Joey Galkin, un promoteur de disques à qui Jim Stewart devait une faveur, s'occupait d'un guitariste local appelé Johnny Jenkins. Il l'a amené au studio pour voir si Stax pouvait obtenir un succès instrumental avec Johnny Jenkins. Jenkins finit par sortir un single chez Stax, mais il n'était pas particulièrement spécial et n'a eu aucun succès. Le jour de la première session de Jenkins fut un échec. Il n'avait pas réussi à enregistrer quoi que ce soit de correct et les musiciens ont commencé à plier les gaules. Mais Galkin avait passé un accord avec un jeune chanteur du groupe de Jenkins et lui avait dit « Écoute, Jenkins n'a pas son permis de conduire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'emmener au studio, en voiture, c'est toi qui conduis et en échange, je t'obtiens un essai. » Le jeune chanteur était ravi. S'il conduisait Jenkins au studio, il essaierait d'enregistrer un disque lui aussi. Personne n'était intéressé, mais Galkin a usé Jim Stewart jusqu'à ce qu'il accepte d'écouter cette personne qu'il considérait comme le chauffeur de Johnny Jenkins. Après l'avoir entendu, Steve Cropper, court chercher Lawrie Steinberg qui était en train de ranger sa basse et lui dit de la ramener vite fait au studio. Cropper joua du piano, Jenkins resta à la guitare et Booker, Hall et Lawrie jouèrent de leur instrument habituel. James Stewart n'était pas particulièrement impressionné par le résultat, mais il devait une faveur à Galkin, ok. Il a donc sorti le disque, une espèce de copie amusante, mais peu originale, de Little Richard.
Hey, hey, pretty baby, baby, show it high. Hey, hey, pretty baby, baby, you show it high. Every time I look at you, you drive me out of my mind. She got a big divide, won't hurt you by my side.
Mais rapidement, les DJ ont retourné le disque et c'est la face B qui est devenue un tube.
These arms are mine. They are lonely. Lonely and feeling blue. These arms are mine.
Otis Redding ne sera plus jamais considéré comme le simple chauffeur de Johnny Jenkins, sauf pour les crétins qui continueront à colporter cette légende idiote. Et le label Stax Records est sur le point d'entrer dans la cour des grands. Note de bas de page. Trois livres ont été utilisés principalement pour cet épisode. Deux sont des bouquins sur Stax, Soulville USA, The Story of Stax de Rob Bowman et Respect Yourself, Stax Records and the Soul Explosion by Robert Gordon. Country Soul de Charles L. Hughes est un aperçu plus général de la musique soul produite dans le Tennessee et l'Alabama dans les années 60, mais il est utile car il est moins susceptible de prendre les déclarations sur les altitudes raciales au pied de la lettre. Il existe de très bonnes compilations, très bon marché de la musique de Booker T and the MGs. The Complete Stax Vault Single Volume 1, 1959-1968, est un coffret de 9 CD contenant une grande partie du reste de la musique. Il est épuisé, mais si vous le trouvez d'occasion, précipitez-vous, et si vous en trouvez deux, vous pouvez me l'offrir.
Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.